Que le nom du Seigneur soit béni pour ces moments. Alors, nous allons faire deux lectures. La première dans le psaume 33, le verset 9. Psaume 33, verset 9. Un verset qui fait toujours beaucoup de bien quand on le lit, qui rassure, qui encourage. Et comme on vient de le chanter, ça vaut la peine de se taire et de bien réfléchir à ce que ce verset peut vraiment nous dire. Psaume 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Je le relis, s'il vous plaît. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, nous avons une situation qui prouve cette affaire. Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13, nous voyons un homme qui n'est pas encore chrétien, je le pense. Il n'est pas encore vraiment, vraiment, en tous les cas, il n'est pas engagé. C'est un étranger qui est là, à Jérusalem, il travaille. C'est un officier de l'armée, il s'appelle Emmanuel, je crois. Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis, Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et tout le monde dit, « Amen. » Mais on peut dire « Amen » parce qu'on réalise vraiment que ces choses, elles sont rapportées pour que l'on puisse reproduire la même expérience. Est-ce que vous croyez que ce soir, le Seigneur pourrait honorer notre foi de la même manière qu'il a honoré la foi de ce centenier ? Est-ce que Dieu peut le faire ? Mais il doit le faire. Il ne peut que le faire si nous avons la même attitude. Cet homme, je viens de le dire en introduction, il n'était pas encore chrétien, on s'en doute, mais il avait compris l'autorité de Jésus-Christ. Et il avait même compris des choses que les chrétiens ne comprennent pas. C'est où qu'on peut le croire ? Eh bien, dans l'évangile de Luc, gardez la page. Dans l'évangile de Luc, il nous est rapporté la même histoire. Ça vaut la peine de comparer. Et dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 7, on voit quelque chose de très étonnant. Les amis vont... Cette histoire, elle est présentée d'une autre manière, mais regardez ce qu'ils vont dire. Regardez bien. C'est quand même impressionnant. Donc cet homme, il dit, au verset 6, voyez, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Bon, ça, on l'a lu dans la première. Mais regardez les religieux. Les religieux, regardez bien, au verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est sûr qu'ils étaient contents, il leur avait bâti l'église. C'est sûr que c'est bien. Il mérite, regardez bien, il mérite que tu accordes la bénédiction. Et lui dit, non, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc les religieux, les croyants disent, il mérite. Et lui dit, non, je ne mérite pas. Qui c'est qui avait raison ? Les religieux ou l'officier ? Et c'est l'officier. C'est l'officier qui a raison. Donc voyez que l'humilité de cet homme lui permet de percevoir des vérités. C'est très, très, très intéressant. Est-ce que vous comprenez ? Cet homme, il n'est pas encore, il n'est pas dans le royaume de Dieu. Il a compris sur certaines choses. En tous les cas, il est humble. Il est humble parce que il est là. Il dit pas Jésus, tu sais, moi je suis un officier de l'armée, je viens d'Italie. C'est quand même moi. Tu vois la synagogue là-bas qui dépasse, c'est moi qui l'ai construite. Donc, franchement, tu pourrais faire quelque chose. Non. Il n'est pas du tout dans cette affaire. Il sait que tout est grâce. Est-ce que vous croyez ce soir que Dieu fait grâce? Vous le méritez? Vous ne le méritez pas? Si vous partez comme ça, vous ne serez pas béni de toute façon. Vous savez, on peut nous penser que les gens méritent ou ne méritent pas. Regardez à la croix. À la croix, il y a un brigand. Le brigand, ce n'est pas un voleur de pommes. Le brigand, c'est quoi? C'est un criminel. Donc, il fait une prière qui n'en est pas une, mais en fait, il parle à Jésus. Il lui dit, souviens-toi de moi. Imaginez que pas loin soit venu un des membres de la famille ou quelqu'un est mort à cause de lui. Peut-être, est-ce que ça peut être arrivé que quelqu'un, après tout, moi, je vais aller le voir mourir. Je sais qu'il est crucifié, tiens, ce jour-là. Eh bien, je vais aller le voir. Je vais le voir payer ce qu'il a fait à mon frère. Est-ce que c'est possible que dans toute cette foule, il y ait quelqu'un de la famille? Ben, c'est fort possible. Et imaginez qu'il ait entendu Jésus lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cet homme aurait pu dire « Mais non, il ne mérite pas. Il a tué mon frère ou il a tué quelqu'un de ma famille, mon père. » Non. Et nous, on est, qu'on le veuille ou non, malgré notre religion, malgré notre conception des choses, on est, qu'on le veuille ou non, dans le mérite. Et la religion du mérite, ça n'existe pas. Gloire à Dieu. Ça fait que quelle que soit votre vie, peut-être que vous avez passé une mauvaise semaine. Est-ce que ça peut arriver de passer une mauvaise semaine? De ne pas avoir été comme il faut. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, ça peut arriver. Mais on ne doit pas se culpabiliser. Par contre, on doit dire, Seigneur, j'ai passé une mauvaise semaine, je ne veux pas la revivre. Je te demande pardon vraiment de tout mon cœur. Mais la bénédiction ne dépendra pas de la bonne ou de la mauvaise semaine. La bénédiction dépendra de cette humilité qui vous amènera à comprendre les vérités. Vous vous rendez compte, cet homme, c'est un étranger, un officier, un homme qui a appris à haïr, qui a appris à tuer, parce que nous, on ne se rend pas compte, mais allez voir, si vous avez des doutes, allez voir M. Dubois, qui est engagé dans une armée de combat, et allez voir comment ça se passe, les classes, quand on vous apprend dans une compagnie de combat. Allez voir ce qu'on vous apprend. Cet homme, on lui a enseigné à avoir la haine de l'ennemi. Quand vous êtes engagé dans une compagnie de combat, on vous enseigne, on vous contrôle pour avoir la haine de l'ennemi. C'est vrai ou c'est pas vrai, M. Dubois? C'est comme ça. Et les soldats de l'époque, nous on voit des soldats, des fois des permissionnaires en permanence tout le temps. Non. Ce sont des gens à qui on apprend à tuer et s'ils ne sont pas trop bêtes, à ne pas se faire tuer. Voilà comment ça, on résume l'armée. Cet homme, on lui avait appris à avoir la haine de l'ennemi. Lui, il est en Israël, il fait son travail et il nous a dit, on l'a lu, il aime notre nation. Aimer les étrangers. Il aime notre nation. C'est pas beau ça? Pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce qu'en fin de compte, nous, ce qui nous préoccupe, c'est la remarque de Jésus à ces religieux qui sont si loin de Dieu, si proches de la parole, enfin de la parole de la loi, et si loin de la grâce. D'ailleurs, à tel point que Jésus va devoir leur dire, mais quand j'y reviendrai, les fils du royaume seront dans les ténèbres. Ça fait mal au cœur de s'entendre ça. Et combien de chrétiens, soyons honnêtes, ne sont pas dans la lumière comme ils devraient l'être, à cause justement de cette perception qui est liée au mérite. Il mérite. Il a bâti la synagogue, au moins dit, bénis-le à lui, au moins à lui. Et il n'aurait pas bâti la synagogue, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Il ne mérite pas. Mais Jésus l'a vu, l'humilité de cet homme, qui était attaché à son serviteur. Vous savez, à cette époque-là, les serviteurs, ils n'avaient aucune valeur. Un cheval avait plus de valeur qu'un serviteur, au niveau monnaie. Un cheval, on le faisait soigner. Un serviteur, on le laissait mourir, ça coûtait presque rien. Donc il aurait pu dire, bon, il est malade, il va mourir, mais j'en achèterai un autre. Il nous a dit qu'il était attaché à son serviteur. Vous voyez, c'est la preuve qu'il y a dans le cœur de certains hommes, malgré leur formation, malgré leur passé, parce qu'on peut avoir un passé pénible et justifier notre caractère avec ce passé. Ouais, moi, avec ce que j'ai vécu, c'est normal que j'ai un caractère, que je sois méchant. Ah oui? Demandez-lui au Seigneur ce qu'il en pense. Cet homme, je vous dis, il avait une formation à haïr l'ennemi et il avait décidé d'aimer. Et si nous nous décidons de dire, moi je vais aimer les serviteurs, même si c'est il y a peut-être un patron au milieu de nous, et bien moi je vais aimer mes employés, je vais les aimer. Même s'ils ne sont pas toujours respectueux, ça ne fait rien, je vais les aimer. Ça plaît à Dieu ça. Il aime notre nation, il aimait son serviteur, il était très attaché à son serviteur, il était humble, il avait compris. Il avait compris l'importance de ne pas dépendre d'œuvres qu'il avait faites. Si on peut faire des œuvres, tant mieux. Est-ce que c'est bien si on peut faire des œuvres? S'il avait bâti une synagogue, c'est bon, il devait avoir les moyens. Mais après tout, si on peut faire des œuvres, c'est bien. Faisons-les, de tout notre cœur. Mais ce n'est pas ça qui fera qu'on sera plus béni. Ce qui fera qu'on sera plus béni, c'est qu'on croit ce qu'on lit. Car il dit, et la chose arrive. Et là, nous le voyons, parce que l'humilité, c'est une chose, Dieu fait grâce aux humbles. L'amour, ça nous approche du calvaire, c'est évident. Mais il y a la troisième valeur, cette valeur qui est là, dans le texte, où Jésus s'arrête d'ailleurs, quand cet homme me dit, mais tu sais, c'est pas la peine que tu viennes à ma maison. Tu sais, moi je suis qu'un capitaine de l'armée, mais j'ai une autorité. C'est-à-dire que si je dis à un soldat va, il va. Si je dis à un autre là-bas viens, il vient. Si je dis à celui-là là-bas fais ça, il le fait. Vous l'avez lu comme moi. Moi j'ai de l'autorité. Pourtant je ne suis pas grand-chose, j'ai juste un centenier, il y a le mot cent dedans, ça veut dire qu'il avait sous ses ordres 100 soldats. C'est ça un centenier. Donc c'était un capitaine, c'est ça. Il avait 100 soldats sous ses ordres. Il dit mais moi, c'est comme ça que ça marche. Je suis sous l'autorité de Rome. Rome m'a donné tel pouvoir sur 100 hommes. Et comme il était soumis, il le dit, parce que moi qui suis soumis, j'ai des soldats sous mes ordres. Est-ce que vous me suivez? Il est dans un état de soumission malgré l'autorité qu'il a. Il le dit bien, car moi, on le relit le verset 9, la clé elle est là. La clé de la grâce. Regardez bien. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Il a de l'autorité, non pas parce qu'il a 100 soldats sous ses ordres, il a de l'autorité parce qu'il est soumis. Donc il dit, moi, simple bonhomme, simple italien, là, qui vient faire mon boulot de capitaine, là, ici, à Jérusalem, ou à Capernaum, c'est pareil, c'est à côté. Moi, je me soumets, j'ai de l'autorité. Alors, il a compris que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Donc si un homme peut avoir de l'autorité sur 100 bonhommes, il a compris que Jésus, il a autorité sur tout, puisqu'il est le Seigneur. Et c'est ça que l'on doit comprendre. C'est pour ça que Jésus dit, Jésus est même étonné, il le savait très bien. Mais la Bible parle avec beaucoup de joie de cet étonnement de Jésus quand il est dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Alors, il est heureux. Le Seigneur, il manifeste de l'approbation. Il voit un étranger qui a de la foi. C'est beau quand même. Le Seigneur, il est heureux si ce soir, il voit dans notre cœur qu'il y a de la foi. Le Seigneur, il le voit dans le pays. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui manifeste de la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les murailles de Jéricho, elles sont tombées comment? Par la foi. Franchement, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit aurait pu écrire « Les murailles de Saint-Esprit sont tombées par la puissance de Dieu » Sérieusement. Oui ou non? Elles sont tombées par la puissance de Dieu ou par la foi? Par la foi et par la puissance de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais le Saint-Esprit met l'accent sur la foi, de la même manière que chaque fois qu'un homme, une femme est guéri, délivré, libéré, guéri, etc., Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ta foi t'a guéri. Il aurait pu dire, je suis le Fils de Dieu, ma puissance t'a guéri. Il aurait pu le dire, oui ou non? Non, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, que son nom soit béni. Et là, Jésus manifeste de l'étonnement, c'est pas sentimental, c'est profond. Vous comprenez bien que c'est pas « Ah, je suis content, il y a quelqu'un qui a la foi ». Non, il manifeste cette grâce qu'un homme ait pu développer dans son cœur, malgré son cursus, malgré son passé, malgré tout ce qu'il a pu avoir dans la caserne, vivre, on ne sait pas tout ce qu'il a vécu. Il a décidé d'aimer. Il a décidé d'être homme. Non, c'est pas la peine que tu viennes. Je sais, tu as le pouvoir, à l'instant même où tu prononces une parole, de bénir mon serviteur. Il le sait. Est-ce que on le croit, ça? Que Dieu a le pouvoir de guérir, le pouvoir de bénir. Car il dit, et la chose arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va devoir, bien sûr, expliquer le drame de la religion à tel point que les fils du royaume, c'est quand même, ça fait mal au cœur. C'est la première fois que Jésus utilise cette expression. C'est la première fois. C'est vrai que c'est après le sermon sur la montagne, c'est au début de son ministère, mais enfin, c'est la première fois qu'il utilise cette expression qui fait froid dans le dos. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il devait être furieux. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on va aller dans les ténèbres? Eh bien oui, parce que si on n'a pas la foi, on ne s'approchera jamais de Dieu. Si on n'a pas la foi, on n'obtiendra jamais le salut. Si on n'a pas la foi, eh bien on restera dans la religion, avec le jugement, avec une perception complètement erronée. Il mérite. Vous n'avez pas à mériter, ça n'existe pas. La religion du mérite, ça n'existe pas dans la Bible. La religion du mérite, ça existe dans des églises où on vous manipule. Dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Le Seigneur, lui, il fait grâce dès qu'on le prie. Vous avez lu l'histoire du roi Manassé? Est-ce que vous connaissez l'histoire du roi Manassé? Allez, dites-moi. Qui connaît bien l'histoire du roi Manassé? Bon, dans 2 Chroniques 32, si je ne me trompe. Non, mais ça vaut la peine. C'est pas une bénédiction du Nouveau Testament, ça. Lisez avec moi. Prenez votre Bible. Il faut que vous preniez votre Bible. Tant que vous n'aurez pas tous votre Bible, je ne lirai pas. Vous avez entendu, Caroline? Deux chroniques. Je vois qui c'est qui a sa Bible ou pas. Ouais, 2 Chroniques. Alors, regardez bien. Mais c'est extraordinaire. Moi, c'est des histoires qui m'ont fait bondir de joie. Deux Chroniques, j'espère que c'est ça, 32 ou 33. Deux Chroniques 33. 33. Ah mais écoutez-moi, vous lirez cette histoire. Combien cet homme, il est malade, et il est méchant, et il fait des choses de fou que les païens ne faisaient pas. Regardez, 2 Chroniques 33, ça vaut la peine de le voir, regardez. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoi que l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Regardez bien. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu. C'était vraiment une abomination. De laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi et les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent, à cause de lui, du roi, s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé, l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, et le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Regardez la suite. Non mais regardez bien. Vous avez vu tout ce qu'il a fait quand même, c'est pas mal. Hein. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, regardez bien, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alors là, après, il bâtit, etc. Vous lirez la suite, c'est extraordinaire, tout ce qu'il a fait. Et l'Éternel se laissant fléchir. Gloire à Dieu. Moi, je l'aurais, moi, voyez, moi qui suis qu'un homme, moi, je peux vous dire que je ne l'aurais jamais rétabli. J'aurais eu trop peur qu'il recommence. Vous me suivez? Et Dieu l'a rétabli. Vous l'aurez rétabli, vous, sérieusement? Vous êtes Premier ministre, vous dites, non, mais le mal qu'il a fait, tout, il a détruit le pays. Ah non, 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 il peut prier tant qu'il voudra. Moi, je ne le remets pas à son poste. Vous l'auriez rétabli? Qui l'aurait rétabli? Allez, faisons un sondage. Vous voyez, vous êtes comme moi. Personne ne l'aurait rétabli. Mais Dieu l'a rétabli. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu, il a vu son cœur. Et Dieu, mais vous rendez compte de cette expression, voilà, c'est pareil que quand Jésus est dans l'étonnement. Quand Dieu se laisse fléchir, ce n'est pas du sentimentalisme. Dieu pardonne, Dieu relève, Dieu change le mal en bien, Dieu guérit. Mais voilà, et Dieu parle, n'attendons pas d'être emprisonnés, d'être enfermés, d'être enferrés, d'être vraiment dans la prison, dans l'épreuve. Humilions-nous devant le Seigneur, comme cet homme. Seigneur, moi je sais que tu peux tout. Je le sais. Qui le croit ce soir? Qui est capable de rentrer peut-être chez lui et de dire, Seigneur, vraiment je ne peux pas faire autrement que de te faire confiance. Je te fais confiance. Dieu a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Il peut tout. Et cet homme, vous voyez, qui ne devait pas sûrement avoir une grande connaissance biblique, l'humilité l'avait amené à du discernement. Qu'il en soit ainsi, que nous devenions humbles. C'est écrit, quiconque se rendra humble. Ça prouve que l'humilité, ça se développe. Oui ou non? Il a dit Jésus, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Donc l'humilité, c'est quelque chose qui se développe, qui se recherche, qui se travaille. Et lorsque vous obéissez, lorsque vous dites oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est écrit, c'est vrai. Mais ça, c'est comme ça qu'on devient humble, en nous soumettant à la parole de Dieu. Oui, Seigneur, tu as fait ça à Manassé, tu as fait ça aux brigands. Oui, la religion du mérite n'existe pas. C'est la grâce qui existe, c'est le pardon qui existe. Et nous avons un Dieu puissant, mes frères et sœurs. Nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu est puissant. Et quand il est rentré à la maison, qu'est-ce qu'il a vu cet homme? Que le serviteur, il était guéri. Gloire à Dieu. Vous croyez que Dieu peut changer les situations? Eh bien, mettez-le à l'épreuve. Mettre Dieu à l'épreuve, ce n'est pas dire, bon, ben, Seigneur, fais-le. Hein. Il a dit que tu pouvais le mettre à l'épreuve. Non, non, non. Obéissez à Dieu et mettez-le à l'épreuve. Si vous obéissez à Dieu, si vous dites, oui, je vais apprendre à écouter. Michael, il ne chante pas terriblement, mais c'était bien les cantiques. Il chante presque faux, mais ça ne fait rien. Non, ce n'est pas Michael, c'est Nicolas. Voilà, je me tairai et j'apprendrai. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Eh bien, moi, j'apprendrai. Et vous verrez si Dieu ne vous secourt pas. S'il a fait ça pour le Manassé, si Jésus a fait ça pour le brigand, je pense, sans me tromper, que Dieu peut le faire pour tout le monde. Oui ou non? Alors, qu'il te soit fait selon ta foi. D'ailleurs, Jésus, il n'y a pas un grand sermon de 3h15. Hein, dit un mot, et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Bah. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Dis un mot. Va. Bah. Il a dit un mot. Il n'y a pas besoin de beaucoup de discussions. Je ne sais pas si vous avez développé la grâce d'attendre en silence le secours de l'Éternel, mais je vous encourage à le faire. Il est tout puissant. Vous entendez? Jésus est tout puissant. Il guérit, il délivre, il fait grâce, il pardonne. Vous avez vu quand David, on en a parlé tout à l'heure, David il a péché grave, hein, et pourtant dès qu'il a dit j'ai péché contre l'Éternel, la première parole qu'il reçoit c'est Dieu pardonne ton péché. Dieu pardonne. Soyons vrais. Soyons pas dans la comédie, soyons dans l'humilité, que je le répète, qui va développer du discernement spirituel. Et le meilleur moyen d'être humble, je pense que c'est de lire la Bible. de la lire avec, pas la lire pour la lire, il faut lire 3 chapitres par jour, je lis 3 chapitres. Non, je m'arrête sur un verset, je m'arrête sur une histoire. Pourquoi Jésus a dit ça? Tiens, il y a bien une raison. Et je peux vous dire que ça va vous aider, ça va nous aider à développer cet amour. Seigneur, donne-moi de l'amour. Pour les gens qui sont au-dessus, en dessous, partout, à côté de moi, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'humilité, Seigneur, c'est pas possible. Puisque tu fais grâce aux humbles, mais je vais développer l'humilité. Et cette simplicité dans l'autorité. Faites confiance à l'autorité du Seigneur. Il tient tout dans sa main. Un jour, il va dire un mot, c'est pas grand-chose. Hein. Et tous les morts en Christ, tous, depuis la croix, tous vont ressusciter. En même temps, dans la seconde qui suit, tous les chrétiens vont être enlevés dans le ciel à la rencontre de Jésus dans les airs. Bon, dites-moi, c'est quand même un homme. Moi, quand quelqu'un est évanoui, il m'a fallu mettre 3 paires de gifles pour le réveiller. Lui, en une seconde, il ressuscite tous les morts. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Vous ne trouvez pas ça merveilleux? En une seconde, il va ressusciter des millions de gens qui sont morts. Et que ceux qui sont morts en Christ. Il ne va pas se tromper dans les cimetières. Pourquoi? Ben parce qu'il est tout puissant. Alors on va fermer les yeux et on va dire, Seigneur, apprends-moi à développer. Apprends-moi le même comportement que cet officier. Seigneur Jésus, nous croyons ces choses. Tu dis un mot et ta puissance se manifeste. Parce que tu as reçu pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est écrit dans ta parole que depuis que tu es remonté au ciel, les puissances, les autorités, les dominations, tout est soumis. Merci Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu es éternel, puissant dans les combats. Nous le croyons Seigneur. Que tu as pouvoir sur toute chair, sur toute maladie. Oui, merci de nous avoir laissé ces histoires. Merci de nous avoir montré aussi ton étonnement. Comment tu t'es laissé fléchir par la prière de ce roi mauvais en prison. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta bonté, pour ta préscience, car tu sais ce qu'un homme fera une fois qu'il est béni. Donne-nous, Seigneur, de développer cette grâce, cette humilité, cet amour et cette soumission à l'autorité, afin que de la même manière, nous puissions, par un mot de ta part, voir nos prières qui correspondent à ta volonté être exaucées. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Nous restons recueillis. Peut-être que quelqu'un dit, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi. Peut-être quelqu'un qui dit, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi, oui. Croyez que si Jésus a institué la prière, l'imposition des mains, ce n'est pas pour des blagues. C'est parce qu'il veut montrer qu'il est puissant, qu'il guérit les corps, les cœurs, les foyers, les couples. Il est tout puissant. Donc si quelqu'un veut, venez sur le devant, je prierai pour vous. Il est tout puissant, le Seigneur. Il est le Dieu qui guérit toutes les maladies. Il est vivant. Alors approche-toi, si tu le ressens. C'est personnel, vous comprenez bien que ce n'est pas une question d'insister sur un appel. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni.